was the freedom bell to remind you that you are listening to
Radio Campus Grenoble 90.8.
L'apérophonie, le booster musical et culturel.
This is Radio
90.8.
Radio. There is news every hour that we are on the air. Every hour on the hour. We transmit world news, truthful and undistorted. Our feature programs offer music, satire, entertainment, information, commentary, and services. Real services.
L'apérophonie.
Yes, music just to please our audience.
L'apérophonie. Apérophone. Apérophile.
L'apérophonie.
This radio station has been constructed.
Apérophonie.
Apérophonie. Le cocktail musical et culturel du 90.
Freedom of speech. Communication.
Grenoble 90.
L'apérophonie.
Apérophonie.
Le booster musical et culturel de ta radio.
Bonjour, bienvenue sur l'apérophonie sur Campus Grenoble 90.8. Moi c'est Samuel, mon truc c'est à moi, c'est les entretiens. Et j'ai voulu inviter un ami aujourd'hui pour parler cinéma notamment et comprendre un peu comment un film peut être avoir un impact vraiment important sur quelqu'un et comment un film d'ailleurs peut avoir un lien avec un humain tout simplement. Donc je suis avec Jérémy. Salut Jérémy.
Salut.
Déjà juste pour apprendre à te connaître un petit peu dès le début, donc tu es projectionniste à Montciné, donc qui est ciné de Saint-Martin-d'Air.
C'est ça.
Et comment tu te définirais déjà, avant de dire même le film dont on va parler, culturellement, qu'est-ce qui te représenterait selon toi, qu'est-ce que tu écoutes comme musique, qu'est-ce que tu regardes comme film?
Ben, je suis assez client de tous les supports, tant qu'ils sont artistiques en fait, particulièrement tout ce qui est musique, film, littérature, bande dessinée. Mais c'est vrai que j'aime particulièrement ce qui expérimente et ce qui pousse en fait la forme dans ses limites, pousse le support, le média, et je suis assez client de toute proposition un peu radicale en fait.
Ok, et oui justement, donc on a un film qui pousse un peu ça déjà dans la forme, donc il y a Trainspotting de Danny Boyle en 96. Avant d'en parler, on va déjà passer un petit extrait.
Choisir la vie, choisir un boulot, choisir une carrière, choisir une famille, choisir une putain de télé à la con, choisir des machines à laver, des bagnoles, des platines laser, des ouvre-boîtes électroniques.
Dégage ! Man !
Choisir la santé, un faible taux de cholestérol et une bonne mutuelle, choisir les prêts à taux fixe, choisir son petit pavillon, choisir ses amis. Choisir son survêt et le sac qui va avec. Choisir son canapé avec les deux fauteuils, le tout à crédit avec un choix de tissu de merde. Choisir de bricoler le dimanche matin en s'interrogeant sur le sens de sa vie. Choisir de s'affaler sur ce putain de canapé et se lobotomiser au jeu télé en se bourrant de McDo. Choisir de pourrir à l'hospice. Et de finir en se pissant dessus dans la misère, en réalisant qu'on fait honte aux enfants niqués de la tête qu'on a pondus pour qu'ils prennent leur lait. Choisir son avenir. Choisir la vie. Pourquoi je ferais une chose pareille? J'ai choisi de pas choisir la vie. J'ai choisi autre chose. Des raisons? Y a pas de raison. On n'a pas besoin de raison quand on a l'héroïne.
Donc on était sur la scène d'intro du film, qui pose déjà une petite ambiance quand même pour le film. C'est même toi d'ailleurs qui m'avais proposé de passer cet extrait. Déjà, qu'est-ce qui t'évoque
Il est assez représentatif de l'œuvre. Je pense que c'est un film aujourd'hui qui est devenu culte, et notamment cette intro. Il y a de grands posters qui sont vendus juste avec cette intro. Choose life, choose a job.
Ouais, et qui pose même déjà le thème du film, on va pouvoir en parler. Comment tu résumerais le film, comme ça, toi qui le connais par cœur, je suppose. Et c'est peut-être pas facile même qu'on le connaît par cœur, finalement,
de
résumer un film.
C'est dur d'être objectif, c'est dur de...
Exactement.
Bah, je dirais qu'on suit une bande d'amis, justement, qui... qui pour la plupart sont tous addicts. La plupart quand même le sont à l'héroïne, mais il y en a un qui l'est au sport et l'autre au baston en fait.
Et ouais.
Enfin on va vraiment voir l'évolution de ce groupe en fait au fil du temps.
Pourquoi ce film, quand je t'ai proposé de faire cette émission, pourquoi t'as choisi celui-là? Qu'est-ce qui fait qu'il est proche de toi et de tes goûts en fait? Qu'est-ce que ça reflète chez toi?
J'ai beaucoup hésité entre plein de films. Ouais. J'aurais pu te parler de films de David Lynch, de Lars von Trier, de Refn, mais je pense que tout le monde, ça sticle déjà un peu dessus.
Ce qui n'empêche pas d'aimer et d'apprécier.
Oui, mais je pense que d'autres personnes pourront t'en parler.
Ouais.
Ça aurait pu être un film de Gaspard Noé, ça aurait pu être Martyr de Pascal Logie, enfin, ça aurait pu être mille autres trucs. Mais j'ai décidé de recentrer vers des films qui me sont plus chers et j'ai beaucoup hésité entre Donnie Darko et Trainspotting.
Ouais.
Je me suis dit qu'avec la ressortie de Donnie Darko, là, assez récente, il n'y avait peut-être pas la peine de lui donner un support. En plus.
Et donc du coup, il y a une espèce de volonté, en tout cas un amour pour les choses un peu, ouais, comme tu dis, qui poussent la forme, en tout cas un peu extrême en termes d'émotion, en termes de, qui pousse aussi les limites de l'esprit sain, on va dire. Il y a un peu un truc comme ça qui se reflète dans ce que t'aimes.
Ouais, peut-être un peu, mais ouais, j'aime bien que lorsque t'as terminé une œuvre, quelle qu'elle soit, qu'il t'en reste quelque chose, tu vois. Qui a été impacté. C'est Lars von Trier justement qui dit que l'art, ça doit être un petit caillou dans une chaussure. Et c'est ça, enfin.
Ouais. Et en fait, justement, dans ce film, je trouve qu'il y a une notion de choix, on l'a entendu dans cet extrait-là, et une notion de choix qui revient beaucoup, qui est donc le choix de choisir quelque chose pour sa vie, de choisir l'héroïne aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui a eu un écho en toi, à un moment de ta vie, je sais pas. Comment t'as découvert ce film, en fait?
Alors, j'ai découvert ce film quand j'étais au lycée, après avoir lu les bouquins de Irvin Welsh, duquel est adapté le ouais. film, justement. Et ma meilleure amie de l'époque m'en avait parlé, sachant qu'on apprécie plusieurs films en commun. Des films assez générationnels et assez emblématique des films qu'on mate au lycée, tels que Fight Club, Donnie Darko, justement. Et ouais, on accrochait bien sur cela, et elle m'en avait parlé.
Ouais, et ça a eu un écho particulier en toi, enfin, ça t'a parlé particulièrement, pour, je sais pas, pour le thème ou pour la forme, ou qu'est-ce qui se jouait?
Ce film, il a vraiment une énergie qui est quand même complètement dingue. Quand j'ai l'impression que ça s'arrête jamais, quoi. Il y a des temps morts, mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y en a pas. Enfin, c'est même ouais. quand il y a des drames, c'est complètement fou, ce film.
Alors, le bébé, on va, ah, c'est ça. C'est,
entre autres,
le bébé. Oui, parce que moi, pour être honnête, ce film m'a moins marqué que toi, je pense. Je l'ai vu il y a peut-être un an et j'avais pas gardé un souvenir impérissable, mais j'avais gardé vraiment cette histoire du bébé et notamment la scène de désintoxication où il y a le bébé aussi dedans. Mais enfin, et ouais, c'est comme tu dis, il peut sembler y avoir des longueurs sur cette scène de désintoxication. Il y a c'est pas, il y a pas un montage épileptique ou hystérique. Tout repose sur la forme dans l'image même, ouais. Et ce qui fait que ça peut paraître un peu long, mais il y a cette musique techno derrière qui est
ça reste quand même très très clipesque.
Ouais, exactement.
Les films de Danny Boyle sont très clipesques en fait, et c'est quelque chose qui lui est souvent reproché d'avoir qu'un truc le tape à l'œil. Mais je sais pas, enfin c'est vraiment un gars, il va tout le temps expérimenter en fait. J'ai cette impression.
Ouais.
Mais ce film, ouais, il a vraiment un côté surréaliste. Enfin, les personnages, ils sont ancrés dans le réel, mais il y a quand même cet aspect vraiment fantastique qui s'en dégage. C'est d'ailleurs le producteur Andrew McDonald, enfin, qui dit que lui, justement, enfin, il veut avoir les personnages ancrés dans le réel, mais qu'il veut pas avoir ce qu'il voit à la télé d'habitude que l'objectif du cinéma, c'est d'amplifier ça.
Allez, d'amplifier le réel et de pousser à l'extrême, enfin, c'est ça, à bout le réel.
Ouais. Pour au final, en parlant du réel, ben, d'y ajouter du fantastique. On cherche des cachets dans les toilettes et puis c'est qu'on y plonge.
Ouais. Enfin, qu'est-ce qui fait du coup que ça. Est-ce que c'est ça qui fait que tu apprécies toujours aujourd'hui ? Parce qu'il y a pu y avoir beaucoup de choses qui ont été faites depuis, notamment autour de la drogue. Il y a un traitement très particulier dans ce film. Qu'est-ce qui fait que du coup que t'aimes encore ça aujourd'hui, que c'est encore très important pour toi ?
Bah du coup, ouais, bah, comme je t'ai dit, lorsque je l'ai découvert, enfin c'est vraiment l'énergie qui m'a porté. Il m'a rendu fou ce film en deux semaines. Je l'avais vu 10 fois, quoi. Je le montrais à tout mon entourage. J'en pouvais plus. Puis du coup après des études et un intérêt pour le cinéma qui s'est un peu plus développé, je remarque que d'autres choses beaucoup plus formelles en fait. Le côté surréaliste du film, le côté clipesque, les façons que Danny Boyle il a de faire un film. Après avoir vu cette autre œuvre, on remarque plus ses tics, sa grammaire en fait.
Et cet attachement-là, justement, est-ce que les autres le comprenaient ? Parce que tu dis que tu le montres à tout le monde. T'étais peut-être chiant avec ça. On a tous fait ça à un moment donné. Que quelqu'un voit absolument une œuvre. Est-ce que t'étais tout seul dans ton délire ou est-ce que t'arrivais à rassembler une communauté justement autour de ça ? Est-ce que t'avais des gens à qui en parler ?
Alors, rassembler une communauté, non. Mais les personnes à qui je le montre apprécient le film, quoi, sans en devenir dingue. Après, c'est vrai que quand j'en parle autour de moi, certaines personnes, elles me disent qu'elles n'ont pas pu aller au bout du film parce qu'elles l'ont trouvé trop dur.
Okay.
D'autres, au contraire, qui le détestent parce qu'ils trouvent que c'est vraiment une apologie à la drogue, à l'héroïne, ah oui. Qui trouvent que ça rend séduisant la chose, alors... Je trouvais que c'est pas vrai.
Et pourquoi c'est pas vrai du coup ? Pourquoi ce serait pas vrai
C'est vrai que le ton est quand même assez léger, jusqu'au drame quand même. Il y a une espèce de folie douce. Mais entre la mort du bébé, la mort de Tommy, l'overdose, c'est super noir.
Oui, on nous dit pas que c'est vachement bien du coup.
Non, c'est pas super bien. Et il y a même des scènes coupées du film qui ont été coupés parce que justement ils trouvaient que de trop en mettre ça donnait vraiment un aspect trop moralisateur et c'est dommage parce qu'elle est drôle cette scène coupée mais ils n'avaient pas envie de faire ce qu'a fait après Aronofsky avec Requiem for a Dream qui est vraiment dans le pathos.
Ah ouais, ok, donc il y a un point de vue déjà sur Requiem for a Dream. Ouais, qu'est-ce qui distingue du coup, tu me parles du ton. Requiem for a Dream, pourquoi c'est plus du pathos ? Est-ce que c'est là justement la forme qui manque ?
Ah non. Requiem for a Dream est vraiment un super film, je trouve. Il y a plein de jeux sur la forme, mais ça va vraiment être un œil un peu de jugement, je trouve. Enfin, qui t'en sort à la fin, bah t'as pas envie. Tous les personnages, ils sont en train de mourir, quoi.
Ouais.
T'as pas envie.
Est-ce que ça... Je sais pas, le thème de Trainspotting est quand même quelque chose d'assez fort. Est-ce que c'est quelque chose, toi-même, que t'as expérimenté, que du coup, ça aurait pu avoir un écho ? Est-ce que c'est... comment dire ? Est-ce que l'expérience de ces gens dans le film... Et quelque chose que toi-même tu aurais pu avoir vécu et que du coup ça pop en toi, ou au contraire justement c'est une espèce d'exutoire qui fait que t'as pas besoin d'avoir ces expériences.
Ouais, on va peut-être plus parler d'exutoire, ouais. Parce que effectivement je ne touche pas aux drogues.
Ouais.
mais c'est vrai que j'aime beaucoup les films qui vont en traiter, les films de Gaspard Noé, par exemple, de Yann Kounen.
Ouais. Et donc, comme je disais, en fait, je trouve que c'est vachement une histoire de choix, ce film. Et donc déjà, comme on a pu voir dans la scène d'introduction, et qu'on va pouvoir voir aussi dans, dans le deuxième extrait donc, que tu as choisi, un extrait qu'on va essayer d'analyser et de comprendre pourquoi elle représente pour toi le cœur de ce film. Voilà, donc on va écouter le deuxième extrait.
Eh ben, qu'est-ce que vous foutez, Tommy? C'est pas naturel, mec. C'est génial, le grand air! L'air pur!
Écoute, Tommy, on sait que ça craint pour toi en ce moment avec Lizzie, mais y a aucune raison pour que ça nous retombe dessus!
Mais merde, vous êtes pas fiers d'être écossais?
Mais c'est une punition d'être écossais! On est les plus nuls des plus nuls! Le rebut de l'humanité! Le peuple écossais, c'est de la merde la plus asservie, la plus pitoyable qui ait jamais été chiée depuis que la Terre existe! Ici, la plupart des gens haïssent les Anglais, je regrette, c'est seulement des connards! Alors que nous, on est colonisés par des connards! On n'a pas été foutus d'être colonisés par une race supérieure. On est gouvernés par des balais à chiottes. C'est le trou du cul du monde, ce pays, Tommy, et ton air pur et tes grands espaces, ils peuvent rien, c'était foutu d'avance!
Désolé, mec, vraiment. Non, je te jure, c'est vrai. J'aimais bien l'idée, moi, tu vois.
C'est à peu près à ce moment-là que Spud, Sick Boy et moi, on a pris démocratiquement la saine décision de se remettre à les rôles le plus vite possible.
Putain, la classe du...
Ça a pris 12 heures.
Alors, donc t'as choisi cet extrait. On va remettre dans le contexte un peu. Quand est-ce qu'elle intervient, cette scène exactement, dans le film?
Du coup, Renton, Sick Boy et les autres viennent de se dire qu'ils vont arrêter... l'héroïne, ouais. Renton le fait par volonté propre. Les autres le font juste pour dénigrer son geste en montrant que c'est pas si difficile. Et ouais, là, c'est qu'ils traversent tous un peu des emmerdes d'ordre différent. Ouais. Dont Tommy avec sa copine à cause de ses potes qui lui ont volé une cassette dans laquelle, en fait, justement, Tommy et Lizzie s'étaient filmés en train de coucher. Et le fait que cette cassette ait disparu provoque une crise dans son couple.
Et donc, en fait, cette scène, je trouve... Enfin, du coup, on entend avec la fin où le gars, donc Renton, joué par Ewan McGregor, va dire « ça nous a pris 12 heures, on a pris la décision de le faire, de reprendre l'héroïne ». C'est presque un choix politique, en fait, comme si c'était un choix conscient et pas forcément un truc qui renvoie une addiction. Je sais pas, est-ce que c'est...
Oui, c'est comme une espèce de défense face au monde, en fait. On se défonce parce que le monde est... dans lequel on est médiocre, en fait. Il faut s'en protéger. Et comment est-ce qu'on s'en protège? Ben, en étant ailleurs, dans un autre état, en fait. Et ce qui est quand même assez terrible. Et ouais, c'est vrai que tout ce discours, il illustre assez bien que c'est quand même une génération qui est paumée dans une société qui ne lui correspond pas et qui a assez peu de choses à lui offrir. Et du coup, ils plongent tous dans la toxicomanie, car ils ont assez peu de perspectives d'avenir, on dirait.
Enfin... ouais, on dirait bien, ouais. C'est ça. Et justement, est-ce que c'est ça qui te parle là-dedans? Enfin, qu'est-ce qui fait que tu as choisi cette scène en particulier? Pourquoi ce serait le cœur du film, en fait?
Ben, c'est qu'il y a tout ce discours social, je trouve. Enfin... Ils sont dans une Écosse en crise à ce moment-là. Dans le bouquin, c'est vrai que ça transparaît beaucoup plus parce qu'on a des scènes de grève dans les usines. Enfin, il y a...
Ouais, le bouquin met en scène déjà plusieurs types d'addictions. Enfin, comme tu disais aussi, même le militantisme politique représenterait une addiction aussi, il me semble, dans ce bouquin. Il y a plein de choses comme ça. Ouais, c'est ça pour toi, vraiment le cœur.
Bah, c'est vraiment le portrait d'une génération, ouais, je pense. Le cœur du bouquin. Une génération un peu. Pas des bas-fonds, mais. Ouais, tu n'as pas beaucoup d'espoir, quoi.
C'est ça. Et toi, ça donne envie, ça, d'être militant à ton tour? Est-ce que ça a provoqué chez toi une colère ou l'injustice de ces gars-là qui sont réduits à prendre de l'héroïne, quoi?
Après, voilà, le milieu des années 90, je suis né.
Ouais.
Donc, je ne connais pas trop. Après, mais oui. Après, oui, mais.
Bah après, ça. Oui, dis-moi.
Politiques sont ce qu'elles sont, quoi. Mais...
ouais. Non, parce que c'est. Même si c'est un message des années 90, c'est un message qui perdure pas mal aussi dans le temps et qui peut avoir un écho, puisque, enfin, voilà, ça n'a pas fait disparaître les problèmes de drogue, etc. Ouais, c'est pas quelque chose. Quelles émotions ça a pu te procurer, en fait, en voyant cette scène? Déjà, est-ce que tu avais hésité à choisir une autre scène ou c'était vraiment celle-là que tu avais en tête dès le début?
Ah, mais c'était dur d'en sortir une.
Ouais.
C'était très très dur. J'aime tout ce film.
Ouais.
Et ouais, celle-là, j'ai trouvé que c'est qu'il n'y avait pas juste un aspect comique, en fait. Il y a quand même. On touche un peu plus le problème de fond, quoi, que le pourquoi, au final. Ils se mettent dans ces états et pourquoi est-ce qu'ils vont y retourner démocratiquement.
Ouais, ce qui fout la mort vraiment de voir ça. Que c'est le moment du film vraiment où on se dit mais pourquoi ils y retournent et où c'est même difficile de comprendre même en fait ce qu'ils veulent faire.
C'est parce qu'ils s'ennuient.
C'est parce qu'ils c'est ça.
Mais c'est terrible.
Et donc je disais que c'était un message qui pouvait perdurer dans le temps et justement en fait on va pouvoir y venir au Trainspotting 2 donc qui est sorti en 2017 que moi personnellement j'ai pas vu mais que tu m'en as dit le plus grand bien. Est-ce que le message est intact dans ce film?
Dans Trainspotting 2 c'est plus comment est-ce qu'on retrouve ses potes?
Ouais.
après des années d'absence. Parce que, bon, au final, pour moi, déjà, le premier Trainspotting, c'est pas juste un film sur la drogue, mais ça traite plutôt d'un groupe d'amis qui évolue différemment et sur la façon dont on se sépare, justement, de ses amis d'enfance.
Ok.
Et le deuxième, ça va plus être sur comment est-ce qu'on les retrouve après cette séparation qui s'est pas très bien passée.
Ouais. Et est-ce que c'est une bonne idée, justement, ce retrouvaille
Ben, à la fois, il y a beaucoup de nostalgie entre certains de ces personnages, mais en même temps, quand tu vois la relation de base qu'ils avaient, qui est quand même pas très saine au départ...
pas ouf, non ouais.
Tu peux pas espérer grand-chose, quoi.
Et cette nostalgie, elle a marché sur toi?
Ben, elle a marché parce que j'adore le premier.
Ouais.
Mais après, c'est vrai que le film a été assez critiqué parce que justement, on a trouvé qu'il faisait trop de nostalgie par rapport au premier. Ce qui n'est pas totalement vrai. Enfin, vu qu'il est adapté d'un bouquin qui lui-même fait suite à Trainspotting, en fait, il y avait déjà cet aspect-là dans le bouquin. Du coup, c'est pas juste.
C'est une adaptation aussi d'un autre bouquin. Okay.
C'est ça. Ouais, de porno, du coup, qui s'appelle.
Ok.
Qui a été renommé Trainspotting 2 depuis D'accord. que le film est sorti.
Oui, c'est ça. ouais, du coup, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de débats autour de ce film. Ouais. Qu'est-ce qui fait que. Est-ce que toi, t'as retrouvé les mêmes émotions que t'avais pu avoir? De toute façon, le film, c'est pas les mêmes thèmes, donc c'est compliqué, j'imagine. Mais est-ce que tu as réussi à retrouver justement l'esprit, cette forme aussi que
ouais,
t'aimes bien?
Ouais, j'ai vraiment retrouvé et des expérimentations visuelles de Danny Boyle, ouais. qui est toujours à la réalisation du deuxième, mais aussi cette énergie, ouais, c'est ça, le film il démarre direct, il y a de la musique, c'est toujours pas une bande-son conçu spécialement pour le film, quoi. C'est vraiment plus des morceaux pop choisis et rajoutés.
Ouais.
Et ouais, il se termine de la même façon, quoi. avec une grosse référence au premier et toujours dans une énergie folle. Enfin...
Avec la même énergie, la même notion de choix aussi, de choisir des choses pour sa vie.
J'ai pas revu le deuxième entre-temps, ouais. mais il me semble bien... Il me semble bien que à nouveau Renton fait des choix,
des petits monologues. Ok.
Ouais.
On va pas tarder de conclure, mais pourquoi, enfin comment tu pourrais défendre ce film? Est-ce que je te laisse le micro là et pour ceux qui l'ont pas vu par exemple, parce que c'est un pur produit des années 90 et qu'effectivement il commence à être un peu ancien. Comment est-ce que tu saurais défendre ce film et dire mais vas-y, il faut le voir. C'est trop bien.
Bah, tout ce que j'ai dit un peu précédemment, en fait. Il expérimente vachement visuellement, il donne la patate, il a quand même une liberté de ton. On passe quand même d'une comédie à quelque chose d'assez dramatique, mais il y a toujours... et t'as envie de pleurer, et t'as envie de rire avec eux, enfin c'est quand même assez terrible. Puis c'est qu'il y a vraiment cet aspect surréaliste tout au long du film. Je sais plus lequel de l'équipe de conception, si c'est le scénariste, le producteur ou le réalisateur qui disait qu'il voulait faire un film amusant et déprimant plutôt que réaliste et déprimant.
Ok.
J'aime bien cet aspect-là, ouais.
Et pour finir... Est-ce qu'il y a des films pour toi qui sont un peu des héritiers de ça? Enfin, t'en as cité un petit peu, mais pas forcément des héritiers d'ailleurs. Est-ce que c'est pour ceux qui ont vu Trainspotting et qui ont adoré, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller en plus?
Je vais pas conseiller. Alors, il y a beaucoup de films qui ont un peu surfé dans leur promotion, dans leur conception sur l'effet Trainspotting. Aujourd'hui, il y a plein de DVD. Ils utilisent la même pochette, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire. Tu auras tous les personnages en noir et blanc sur fond blanc et tu auras juste une bande orange.
Ouais.
Et je trouve ça ridicule. Mais non, je conseillerais plutôt This Is England de Shane Meadows, qui est vraiment une bande de potes, pareil, dans une Angleterre en crise, dans les années 83 justement, et qui vont justement... une jeunesse un peu perdue également et qui vont se réfugier là par contre dans la politique et c'est vraiment un film sur la séparation en fait du mouvement skinhead plus entre ceux qui sont là, ils sont juste cool, ils écoutent du reggae, du ska,
ouais.
C'est chouette, et ceux qui vont se politiser vraiment à l'extrême droite et partir en vrille en fait. Mais c'est que je retrouve vraiment cet esprit un peu bande de potes qui évoluent différemment, mais qui, bon, au final, font quand même pas mal de conneries ensemble.
Ok. Bah, c'est super intéressant, ouais. Enfin, c'est ça qu'on voit qui se dégage. Ouais, c'est avant tout un film de potes et de comment ils évoluent entre eux et comment ils font de la merde. Ouais. Ils font n'importe quoi, ouais, et comment ils vivent avec ça.
C'est clair.
Ouais, c'est peut-être plus comme ça qu'on pourrait résumer, effectivement, Trainspotting, ouais. En tout cas, c'était super intéressant. Enfin, merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci beaucoup. Et pour conclure, donc, sur cette apérophonie sur Campus Grenoble 90.8, on va pouvoir passer un dernier extrait. Enfin, en tout cas, la musique de fin de Trainspotting 2, qui est donc Iggy Pop. C'est ça.
Qui est donc la reprise de Lust for Life d'Iggy Pop, par lequel justement le premier film s'ouvre. Et la reprise, là, est un remix de The Prodigy.
Super. Et bonne soirée sur Campus Grenoble et à bientôt. Merci beaucoup, Jérémy. Et merci.
Et merci à toi.
Et merci, Louis, à la technique aussi.
Bonjour, c'est Beauvau, bienvenue sur Cinéma Radio. Du coup, j'ai la chance d'être dans le Jardin Hoche à Grenoble accompagné de Manon Hoth, la réalisatrice de l'excellent documentaire de Cendre et de Braise qui sera présenté ce soir au club. Et du coup, Manon, est-ce que tu peux te présenter ?
Eh bien, bonjour. Je m'appelle Manon, je suis cinéaste, aussi chercheuse. Et j'utilise en fait le film, ma façon de faire de la recherche, c'est par le film. Et j'ai un parcours qui vient, j'ai un double parcours à la fois en sciences sociales et en réalisation de films documentaires. Et de Cendre et de Braise, c'est un premier long métrage qui vient après deux courts métrages. Voilà.
Et du coup, De Sombre et De Braise raconte l'histoire, la vie, le quotidien de la cité des Mureaux. Pourquoi tu as choisi de travailler dans cette cité, dans cette ville ou cette cité ? Et peux-tu nous raconter l'histoire de ces immeubles, de ce quartier ?
Oui, alors les Mureaux, en fait, c'est une petite ville ouvrière dans les Yvelines, à l'ouest de Paris, à 40 km à peu près, pas très loin de Mantes-la-Jolie. Qui a été construite, en fait il y a plusieurs quartiers, plusieurs cités aux Mureaux qui ont été construits dans les années 60 pour loger les ouvriers de l'usine Renault-Flin qui est située à juste quelques kilomètres des Mureaux. Et en fait moi j'ai commencé à y travailler il y a une petite dizaine d'années. Ma première rencontre avec les Mureaux, c'était avec des habitants qui étaient venus à Paris pour une manifestation autour des questions de rénovation urbaine, qui eux en fait se mobilisaient pour s'organiser, résister et protester face à la rénovation urbaine, face aux démolitions dans leur quartier. Moi, ça m'a beaucoup intéressée, donc je les ai rencontrés à ce moment-là et m'ont invité à venir les rencontrer et assister à leur réunion aux Mureaux. Ça, c'était en 2010. Et suite à ça, j'ai découvert petit à petit l'histoire de ce territoire. J'y suis retournée quelques fois et j'ai découvert que c'est un territoire avec une histoire ouvrière très forte, celle en lien avec l'usine de Flin, qui croise l'histoire urbaine, la construction des cités et aussi l'histoire de l'émigration. Cette histoire, c'est aussi une histoire de lutte sociale. C'est parce que dans ces premiers moments de rencontres et de recherches, j'ai découvert des archives sur le territoire, comme un film de Jean-Pierre Thorne qui s'appelle « Oser lutter, oser vaincre » sur Flin 68, quand l'usine a été occupée par les ouvriers. Donc voilà, il y a eu cette histoire qui m'a tout de suite interpellée, et puis des rencontres avec ces gens qui se mobilisaient, mais aussi avec d'anciens ouvriers de l'usine, des jeunes qui montaient leur association dans le quartier, qui petit à petit, tout ça m'a donné envie de prendre le temps de commencer un travail de recherche et de cinéma à cet endroit et de me donner plusieurs années pour le faire.
Et tu as fait le choix de ne pas rentrer dans l'usine, toi, de ne tourner aucune image dans l'usine, mais par contre on voit des images d'archives d'un film de Jean-Pierre Thorne. Pourquoi tu as fait ce choix ?
Alors j'ai pas fait le choix. c'est aujourd'hui presque impossible de filmer dans l'usine. J'avais tenté des demandes d'autorisation à certains. Il y avait eu quelques événements au sein de l'usine. J'avais tenté innocemment de demander si je pouvais venir parmi d'autres médias. Et en fait, il y a un tel contrôle de la direction sur ce qui se passe dans l'usine et les images qui peuvent en sortir, que les seuls médias qui pouvaient y rentrer étaient ceux invités par la direction et qui allaient se faire les chantres du progrès de l'usine, etc. Donc, ne pouvant pas rentrer dans l'usine, j'ai essayé de parler des questions du travail et de ces transformations et de tout ce qui avait changé sur ce territoire où l'usine de Flin a compté jusqu'à 23 000 ouvriers, n'en compte plus aujourd'hui que 5 000. Donc forcément c'est des bouleversements, il y a tout un modèle de société qui s'est transformé au cours des dernières décennies et donc j'ai essayé d'évoquer tout ça de manière différente puisque c'est une des questions, celle du travail qui traverse le film, mais il n'y a pas que, puisque le film parle aussi de loisirs, de musique, de rêves, d'amour, de beaucoup de colère, de révolte, mais de rêves et d'espoir aussi.
C'était 56.
De quoi ?
La création de l'usine.
52.
Non. Il y avait à peu près à moins de 10 000 personnes. Ouais, 10 000. Moins de 10 000 personnes. C'est quand même pas mal, une grosse usine. Et en 69, ils sont passés en équipe en 2-8. Donc ils ont été obligés de quasiment doubler les effectifs. Et il n'y avait pas assez d'embauches sur le coin. Ils ont été chercher l'immigration maghrébine et puis africaine. Il y avait des Portugais, mais il n'y avait pas assez. Ben déjà, quand ils ont construit l'usine, ils ont été chercher des gens, des immigrés de l'intérieur, puis ils ont été chercher les gens...
Les Sartois,
dans la Sarthe.
C'est comme ça qu'ils les appellent souvent les betteraviers.
Ils disent les betteraviers,
etc. Des paysans. Ouais.
Tu dis que l'usine a perdu beaucoup de ses employés. Il y a tout un discours très intéressant dans le film par rapport au 3-8. Le fait que quand l'usine est passée au 3-8, ils sont allés chercher des ouvriers immigrés ou des paysans dans la Sarthe pour pouvoir assurer la cadence. Et aujourd'hui, des jeunes parlent des intérimaires qui, comme il y a des intérimaires, ils peuvent plus faire grève en fait. Et c'est une casse du travail syndical. Et ton film, en deux phrases sur ces sujets, est beaucoup plus fort pour le politiquement que beaucoup de films où il y a beaucoup de discours.
Merci. Et effectivement, enfin, c'est un sujet que j'avais vraiment envie d'aborder dans le film, parce que tout le film fait le choix de passer aussi par le sensible. C'est un film qui est composé par fragments. On fait un certain nombre de rencontres, et c'est aussi la juxtaposition de ces fragments, le fait de tisser des liens entre effectivement les ouvriers de Flins qui nous racontent ce que c'était l'usine hier, et par exemple des jeunes intérimaires aujourd'hui du quartier, certains qui sont livreurs, d'autres qui travaillent dans la sécurité, d'autres, beaucoup dans les services, qui sont des secteurs qui sont eux aussi prolétarisés. C'est en juxtaposant, en reliant, que j'essaie de porter un regard sur les transformations du monde ouvrier pour dire que il n'a pas disparu comme certains ont parfois voulu l'annoncer, mais qu'il se transforme et qu'en fait il y a des continuités dans tout ça. Il y a des ruptures notamment, et des jeunes dans le film le disent très bien, sur le fait que les collectifs de travail ont été à beaucoup d'endroits écrasés, et que dans les services il y a moins de traditions syndicales, donc c'est plus dur de s'organiser, on est beaucoup plus isolé. Mais il y a aussi des continuités et des jeunes qui ont un regard très conscient sur cette situation sociale, politique.
Et du coup, tu interroges des jeunes de l'association CROM et un ancien militant du MIB. Et est-ce que tu penses que l'usine Renault a été un terreau pour l'engagement associatif ?
Alors, l'usine Renault, ça a été un terreau, ça a été un haut lieu, un phare de la résistance ouvrière en 68, mais dans les années 70, jusqu'à que le début des années 80, puis là c'est là où ça a vraiment commencé à les effectifs à être réduits, les grèves de plus en plus compliquées. Après, moi ce qui m'a vraiment intéressée, c'est que pour les générations juste d'après, qui n'ont pas accès aux universités, pas accès aux usines, le lieu et le départ de certaines mobilisations et de mouvements sociaux, c'est leur quartier, c'est la rue. Et un personnage comme Momo, donc Mohamed Hossine, qui apparaît dans le film Une nuit au coin d'un feu, où il nous parle de sa vie d'ancien braqueur devenu militant politique, son histoire d'engagement et de résistance à lui, elle a commencé dans son quartier avec des mouvements comme Résistance des banlieues, puis le Comité national contre la double peine, puis le MIB. Et pour moi, il y a des liens aussi entre tout ça. Donc c'est des mouvements qui se transforment, mais des mouvements comme le MIB, c'est un mouvement qui se disait aussi résolument en résistance et en lutte par rapport à un ordre social. Donc il y a des continuités.
Mais d'ailleurs, ton film est très touchant parce qu'il s'inscrit dans une histoire et du film de banlieue et du film d'usine. Tu parlais des films de Jean-Pierre Thorne tout à l'heure. Et moi, en voyant ton film, j'ai beaucoup pensé au Dos au mur, bien sûr. Et j'ai aussi beaucoup pensé au film de Rabah Meurzamèche. Et on dirait que ton film descend de tout ça, en fait.
Alors, oui, c'est pas facile. Je pense que oui. Alors, de quoi il descend, ce film d'un... En tout cas, moi, je suis influencée par un cinéma politique qui remonte... Il y a le cinéma politique des années 70, il y a comment il s'est transformé, ce qu'il est devenu. Alors, j'ai toujours une méfiance quand on parle de films de banlieue ou de cinéma de banlieue, parce qu'on a tendance à créer un genre à part, de la même façon que l'objet banlieue... C'est devenu aussi comme un objet à part dans la société, alors que justement, moi, tout le film fait un trajet pour essayer de montrer qu'on n'est pas du tout dans un monde à part, on est au contraire en plein cœur de notre histoire commune, collective, de notre histoire de lutte. Et je trouve que faut faire attention dans la... Donc je ne suis pas sûre qu'il y ait... Cette idée de film de banlieue, elle apporte quelque chose. Mais en tout cas, oui, Jean-Pierre Thorne, c'est quelqu'un qui a connu à la fois les luttes ouvrières, qui s'est intéressé à des mouvements, aux mouvements portés par les enfants de ses anciens camarades d'usine, qui, pour certains, ont démarré dans des banlieues. Je me suis un peu perdue.
Parce que tout le long du film, moi, je pensais à 93, La Belle Rebelle, en fait. Et quand j'ai vu que Jean-Pierre Thorne était en remerciement à la fin, ça m'a beaucoup touché, en fait. Quel est ton rapport avec lui? Est-ce qu'il t'a donné des conseils? Comment tu l'inscris comme figure tutélaire, un peu?
Figure tutélaire, c'est un grand mot. En tout cas, il a apporté un regard amical et extrêmement bienveillant à plein d'étapes du film. C'est-à-dire au moment de l'écriture, au moment du montage, il est venu plusieurs fois dans la salle de montage. Et pour moi, son regard, son histoire et son parcours étaient effectivement, très importants. Parce que il avait tourné d'abord ses images à Flin en 68, c'était son tout premier film. Parce que lui, suite à ce premier film, son parcours de vie a fait qu'il a eu une histoire d'établissement en usine pendant 7 ans. Il a travaillé sur la chaîne et il a travaillé à l'organisation, il s'est organisé depuis l'intérieur de l'usine. Et puis après, il fait partie de ces rares cinéastes qui, s'étant intéressés aux luttes ouvrières, a continué à aller dans ces quartiers populaires pour s'intéresser à ce que faisaient les enfants, comme je disais, des ouvriers. À un moment où, en fait, beaucoup, par exemple, Flin, c'est un endroit qui a été très investi par des cinéastes, par des militants et par des chercheurs dans les années 70. Mais à partir du moment où la désindustrialisation s'installe et où la situation sociale devient plus compliquée, plus précaire, beaucoup de gens, de militants, ont quitté aussi ces quartiers, alors que Jean-Pierre Thorne, c'est quelqu'un qui a plutôt cherché à tisser des liens et à essayer de repenser le commun et voilà ce qui fait notre monde commun et à tisser des liens entre des générations. Et je pense que ça, il y a quelque chose de très politique à ça. Et du coup, et d'ailleurs, je profite pour souligner que Jean-Pierre va sortir un nouveau film qui s'appelle L'âcre parfum des immortels, qui sera en salle mi-octobre, je crois, et qui revient sur son parcours de vie et du coup qui refait le lien, voilà, depuis ses premiers engagements à l'usine, ses premiers films, puis ses films dans des cités.
Et puis des fois, je peux faire 2 heures pour faire la cuisine, tellement je danse parce que je me tourne. Même quand je vais chez ma sœur, j'amène beaucoup ma tablette. Et quand j'ai mis de la musique, même si elle est en train de faire son manège, elle s'arrête, elle danse et tout. Même son mari se dit, sa mère, elle est folle. Mais dès que j'arrive avec ma musique, tout le monde danse. Ma mère, elle danse, ma sœur, elle danse. Et on danse comme ça en pleine journée. Hop, ça, c'est top.
Et il y a quelque chose de très touchant dans le film aussi, c'est que tu as choisi de filmer les personnages face caméra en interview, mais pourtant le film est très fictionnel, quoi. On se raconte les histoires des personnages et il y a notamment quelque chose que tu mets au centre, c'est le geste, c'est quelqu'un qui va danser dans sa cuisine ou quelqu'un qui va mimer le travail à la chaîne, qui est un peu le passage obligé pour les gens qui habitent dans cette cité. Comment tu as réussi à capter le geste? Justement, alors que on pourrait plutôt penser que c'est un documentaire où la parole est centrale, mais toi, le corps est très important aussi. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché aussi, c'est la manière dont les gens sont habillés. Il y a un syndicaliste au début qui est habillé en jogging le coq sportif et en sac à dos Eastpak. On dit, mais c'est pas possible, Ali Hadid s'habiller comme ça, on dirait de la fiction.
Alors, la parole est quand même très centrale dans le film, puisqu'il y avait un vrai enjeu à donner à entendre des paroles qu'on entend peu, des paroles aussi bien intimes que politiques, que... mais effectivement le geste aussi et des présences, la question des, voilà, des présences des personnages, et c'est quelque chose de très central. Et moi, j'avais pas envie de faire des entretiens face caméra classiques d'enregistrement de la parole. J'ai vraiment eu envie de réfléchir avec chacun des personnages à des mises en scène. Toi, tu disais fictionnel, mais effectivement, il y a un côté assez écrit. Il y a des choix de mise en scène assez forts et assumés, par exemple, comme le fait de filmer la nuit, ou de filmer une nuit à côté d'un feu, ou d'aller filmer... au bord d'un fleuve ou sur le toit d'une des tours de la cité. Il y avait un ensemble de choix comme ça qui étaient où l'enjeu, c'était, en passant par les moyens du cinéma, par la mise en scène, d'essayer d'atteindre, de chercher autre chose. Par exemple, moi, je m'étais très vite aperçue en passant du temps au Mureaux, en y habitant, parce que j'ai aussi habité là-bas, que la nuit, les paroles qu'on me confiait étaient différentes. Qu'il y a, voilà, la nuit, il y a un temps qui s'étire. C'est le moment où parfois il y a des, voilà, c'est un moment qui peut être propice aux confidences. Donc j'avais envie de capter la parole en partie de nuit, enfin beaucoup de nuit. Ensuite, j'avais aussi remarqué que quand je me baladais avec certains des personnages, certains dont avec qui j'ai vraiment noué des liens, enfin, qui sont devenus, enfin, voilà, très proches. Quand on allait se balader en lisière de quartier, il y avait aussi d'autres paroles qui pouvaient survenir, qui étaient différentes de quand on était au pied de l'immeuble, où il y avait un côté où c'était un peu le groupe qui parlait, alors que pour des paroles plus intimes, le fait, voilà, de s'éloigner un peu, d'aller faire un feu dans une forêt à côté, d'aller même sur le toit d'une tour de la cité, ça donnait tout d'un coup un recul pour... Et voilà, et moi je cherchais à faire, voilà, tout un travail. Mais j'avais aussi, voilà, sur la parole, qu'on se laisse ensemble surprendre pour que chacun des personnages me raconte son histoire. Mais j'avais aussi envie que ça soit beau. Enfin, il y avait un désir de cinéma partagé avec les personnages. Il y avait un enjeu vraiment à faire quelque chose de beau, qui passe aussi par la poésie et qui nous aide à regarder différemment et qui fasse résonner autrement ces paroles. Parce qu'il y a le bruit du vent dans les feuilles, parce qu'il y a ce feu qui crépite, parce que tout ça fait qu'il y a une... participe de l'intensité de moments et qui sont là pour... Voilà, pour accompagner, ça accompagne une parole pour essayer de la restituer elle-même dans son intensité, avec la présence des sensibles, des corps qui parlent et des gestes.
Et il y a aussi, tu parles de la lisière, de scènes filmées en bord de scène, justement, ou dans les terrains vagues à côté des immeubles. Mais moi, j'avais vraiment l'impression de voir un film féodal ou médiéval, avec l'usine Renault qui serait la forteresse imprenable, avec le rap de Yeezy OG qui est là, avec Mohamed qui fait un peu le Robin des Bois, même s'il se défend de cette position. Quand même, dans son discours, on sent quand même un petit discours de Robin des Bois, et ce qu'il dit, c'est très beau par rapport à ça. J'avais vraiment l'impression de voir devant un film qui se passait au Moyen-Âge, et Renaud serait le seigneur, et il y aurait tous les habitants autour qui vivraient ou qui survivraient comme ils pouvaient.
Alors, on me l'avait jamais faite. Le Moyen-Âge, ça me projette loin. C'est vrai que j'avais jamais pensé forcément au Moyen-Âge, mais par contre, ouais, quand tu dis Renaud le Seigneur, c'est vrai que moi, dans beaucoup de récits qu'on m'a fait, Renaud, quand ça s'est implanté dans cette région, on m'a souvent décrit que c'était une sorte de pieuvre qui étendait ses tentacules et qui, voilà, avait une sorte de contrôle sur la vie, sur... Les gens racontent... on habitait donc dans des appartements, dans des cités construites par Renaud, mais on partait en vacances avec des vacances organisées par Renaud. C'est Renaud qui construisait les équipements culturels, sportifs. Donc il y avait cette prégnance de l'entreprise. Mais ça, c'était jusque, on va dire, le milieu des années 70. Après, petit à petit, l'entreprise s'est retirée vraiment de la vie dans les cités. Et aujourd'hui, c'est une trace qui reste là, mais qui s'amenuise de plus en plus, même si tous ces personnages que tu cites, que ce soit Momo à côté du feu, Yannick, le jeune rappeur, les Chromes, Antoinette, c'est tous des enfants d'ouvriers, la plupart de Renault. Et du coup, cette histoire, ils l'ont, j'allais dire, un peu... Enfin, tu parlais aussi des gestes, leur corps en ont gardé une mémoire. Et d'ailleurs, quand... Ils parlent du travail des pères ou de leur propre expérience en usine, puisqu'ils ont parfois eu des expériences assez courtes de stage ou d'intérim. Ils miment les gestes pour en parler, comme si voilà, le corps avait encore la mémoire de tout ça. Donc ça sur Renaud, la pieuvre et ses tentacules, à une certaine époque, puisqu'aujourd'hui c'est différent, il y a des engagements plutôt. Et je suis d'accord d'un côté. Et de l'autre côté, alors... je sais pas, Momo, Robin des Bois, pour... enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des figures qui émergent dans le film. Alors, est-ce que c'est un Robin des Bois, ou moi je l'ai vu aussi comme un philosophe, ou comme un vieux sage à côté de son feu, qui porte un regard sur le monde, qui est ancré dans son expérience de vie mouvementée, de son expérience de vie d'écorchée vif, mais qui lui a amené voilà, à avoir un regard assez philosophique, très politique sur la société, très critique de la société de consommation. Yannick, ce jeune rappeur, pour moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un personnage qui a plein de facettes. Et selon les nuits, bah, y a une nuit où il va faire du rap au pied devant sa cage d'escalier avec ses copains, et d'autres nuits où on le retrouve comme agent de sécurité, où il parcourt des immeubles qui vont être démolis et qu'il doit surveiller. D'autres nuits encore, on monte avec lui sur le toit de la tour où il a grandi quand il était petit, et là il se métamorphose encore et devient une sorte de rêveur ou d'ange poète. Et ce que j'aimais bien avec lui, c'est voilà, qu'à aucun moment finalement il se laisse saisir, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on croit que peut-être, bon bah là il y a un personnage qui dans la séquence d'après il nous surprend encore et nous emmène ailleurs, et que le film nous invite à faire ce trajet avec lui et avec ses rêves, parce que c'est lui qui nous raconte un rêve, ce rêve où il s'est vu voler au-dessus du quartier, à un moment faire une chute libre et puis se rattraper à une corniche. Et je crois que c'est un rêve qui nous a donné un jour comme ça dans un micro HF en marchant la nuit dans la rue, qui nous a offert un peu comme un cadeau. Et à partir de ce rêve de Yannick, le film s'autorise lui aussi à rêver, à fabuler, à s'enfoncer encore plus loin dans cette nuit qui pouvait sembler être une sorte de nuit de l'errance, mais qui devient un peu la nuit, moment du possible, moment de l'imagination, politique.
Et d'ailleurs, tu parles de Yannick, mais comment son rap se frotte avec la musique d'Akoche S? Tu as choisi Akoche S pour accompagner le film et les étapes du film, mais il y a aussi Yannick qui apparaît comme un troubadour et son rap est très entraînant. Comment as-tu choisi d'allier les deux musiques? Comment ces deux musiques se frottent?
Alors, je sais pas si moi je dirais qu'il apparaît comme un troubadour. En tout cas, il apparaît simplement, je pense, comme un jeune rappeur qui est extrêmement passionné, excité par désireux voilà, d'entrer dans la création par les textes, par le rap. Et pour moi, c'est important de faire sentir ça. Donc, à un moment où il improvise comme ça, en bord de scène, pas loin de l'usine où a travaillé son père ou les pères de ses camarades, et que lui improvise son rap. Donc, il y a le rap de Yannick qui apparaît à plusieurs moments comme ça du film. Mais effectivement, la bande originale du film elle-même... elle a encore une autre couleur, elle inscrit aussi une forme de contrepoint, peut-être plus onirique, parce que la musique d'Akoche, elle se situe un peu entre free jazz et un mélange d'instruments qui viennent du monde entier, comme des clochettes ou le gong tibétain, ou qu'il allait ramener voilà, de voyages lointains, donc qui ramène des sonorités qui viennent de loin et qui ouvrent quelque chose de très onirique. Et c'est ça qui m'avait plu dans la musique d'Akoche, et que ça, voilà, ça ouvrait encore à d'autres imaginaires. Et du coup, c'est une musique qui est loin de celle, enfin, qui n'est pas celle qu'on attend forcément quand on pense aux cités. Et je trouvais que c'était intéressant voilà, de faire se rencontrer ces différents univers, parce que le film, c'est aussi la rencontre Moi, je dis souvent voilà, que ce travail, parce qu'il est aussi... C'est un film par fragments et on entend un certain nombre de voix. Et les voix et les paroles des personnages comptent beaucoup. C'est un film assez polyphonique. Il y a aussi mon regard aussi à moi qui amène aussi voilà, des propositions. Je ne suis pas présente à la voix ni à l'image, mais je suis présente dans le choix des cadres, dans le choix en allant chercher effectivement à Coche certaines musiques, le choix des... du noir et blanc, de filmer la nuit, d'une certaine façon de filmer, c'est aussi voilà, ma façon à moi de, voilà, de m'exprimer. Donc le film, c'est aussi le résultat voilà, de cette rencontre et entre différents univers, ceux des personnages, le mien, et un moment de voilà, ce qu'on a créé ensemble.
Et à l'écran final, est-ce que c'est important de mettre les personnages par ordre inverse d'apparition dans le film?
Oui, je voulais déjà que tout leur nom apparaisse et en fait c'était important pour moi aussi parce que j'avais envie de bien souligner que Momo par exemple il est présenté comme un ancien membre du MIB et du comité contre la double peine et que comme c'est pas dit directement la nuit on a passé à côté d'un feu, je voulais que le générique le dise et qu'on le voit bien et puis comme c'est donc le générique de fin commence par les personnages qu'on a en tête puisqu'on vient de passer c'est avec eux qu'on était juste avant et puis on refait le déroulé jusqu'à ceux du début. Bon, je sais pas si ça répond à la...
Et enfin, une dernière question. Ton film est très ramassé, il dure 1h07, il y a très peu de témoignages, très peu de personnages. Pourquoi tu as fait un choix d'un format si petit alors que j'imagine qu'il y a des heures et des heures de rush? Et pourquoi tu as choisi très peu de personnages?
Il dure exactement 1h12. Ça, c'est dans le passage 24-25 images secondes. Je sais pas pourquoi sur Internet, le bon, bref. Ouais. Donc, il dure 1h12 et... En fait, il a trouvé sa durée au montage. Alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup de matière à l'issue de plusieurs années de recherche et de films au mur. J'avais plus de 100 heures de rush et que dans cette matière, il y avait beaucoup de choses fortes. Mais à un moment donné, parce que le montage a été long et on a décidé de construire le film sur avec chacun des personnages, que ce soit sauf Yannick qui traverse tout le film, et avec tous les autres, que ce soit un moment de rencontre unique où il y allait avoir une intensité voilà, de parole ou de. Et. Que dire On s'était posé la question à un moment, est-ce que ça aurait pu être un film fresque de 3 heures Ça aurait pu, parce qu'il y a de la matière, mais je pense que. Il y a quelque chose de la musicalité actuelle du film, de l'intensité des moments de rencontre avec chacun de ces personnages qui se serait peut-être un peu dilué. Et après, sur le fait, est-ce qu'il y a peu de personnages? Alors pour moi, il y en a quand même une petite dizaine qu'on retrouve et qui ont tous des histoires très aussi différentes les unes que les autres, mais aussi fortes les unes que les autres. Et je trouvais déjà ça... que ça faisait déjà pas mal.
Bon ben merci beaucoup Manon d'avoir répondu à mes questions. Vous devez absolument aller voir en salle De Cendre et de Braise et vous pouvez acheter le livre aux éditions Anamosa, De Cendre et de Braise, Voix et histoire d'une banlieue populaire de Manon Hotte. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques. Au revoir.